Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, monsieur, bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Voici Samedi en France, l'émission, je vous le rappelle quand même, qui vous propose de visiter des sites sur lesquels vous n'auriez peut-être pas pensé à vous rendre. La preuve, tout à l'heure, avec mon complice du guide du routard, monsieur Gavis Clémenté Ruiz, lui-même, incroyable. Nous vous emmènerons à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, pour découvrir le musée Nicéphore Niépce, quel nom magnifique. Et il est, comme vous le savez, ce monsieur, l'inventeur de la photographie, rien que ça. Juste après, un site de ce que nous appelons ici même le savoir-faire français. Direction cette fois Aix-en-Provence, la capitale du Santon. Le Santon, c'est de saison, non? Alors, nous irons chez un fabricant, bien sûr, et on vous parlera du marché au Santon. Et nous terminerons avec un site en plein air, comme chaque fois. On remontera pour ça jusqu'à Tignes, où on ne vous proposera rien de moins qu'un stage. Écoutez bien, hein, un stage de survie. Il ne faut pas spécialement être un sportif. Non, non, un stage de survie avec un explorateur, un vrai. Il est déguisé en explorateur, il a de la neige partout. Et il a créé une école unique en France, si vous dites. Mais pour commencer, nous allons au bord de la Manche, dans un port célèbre, et pas seulement célèbre pour ses parapluies. Oui, vous avez deviné, c'est très très bien, c'est Cherbourg. Nous sommes alors à la pointe de l'Europe, non Gavins?
Exactement, bonjour William, bonjour à tous. En effet, nous sommes dans le département de la Manche, plus précisément dans l'ancienne gare maritime où venaient accoster les grands transatlantiques.
Ah, oui, oui. Alors il faut rappeler qu'avant l'avènement des traversées en avion, il y avait que les paquebots pour rejoindre les Amériques. Et Cherbourg était l'un des principaux ports pour embarquer, non?
La gare, oui, en effet, a été inaugurée en 1933. Alors c'est un très très bel exemple, un très beau modèle art déco. Alors elle a été bombardée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a été reconstruite ensuite. Et alors c'est à partir des années 1950 à peu près que Cherbourg a vu défiler alors tout le gratin, j'ai envie de dire, des stars américaines qui débarquaient à Cherbourg là avant de regagner Paris.
Mais il y avait
Paris.
Des photos comme ça, c'était les qui débarquaient des bateaux ou alors d'une grande compagnie française, ils étaient sur la passerelle, ils faisaient des voilà, c'est comme
vous
ça.
Vous savez, oui. Le petit coucou avec la main là.
Ouais ouais, mais les toutes les stars américaines. Alors aujourd'hui, qui sont les stars des lieux?
Eh bien aujourd'hui, la Cité de la Mer de Cherbourg vous fera partager l'aventure de l'homme sous l'eau, les mythes, les légendes et cela jusqu'à l'autre star du lieu,
ouais.
C'est le redoutable.
Ah ouais, le redoutable. Le redoutable sous-marin nucléaire, il est à la retraite, non?
Ouais. Et c'est même le premier du genre. On appelle ça un SNLE dans le jargon de la marine, hein, que vous connaissez
parlez,
bien.
Vous parlez un professionnel.
Ça veut dire quoi?
Le mec qui nage en eau trouble. Oh.
Sous-marin nucléaire lanceur d'engins, SNLE. Mm-hmm. Alors, le redoutable, il a été lancé en 67 par le général de Gaulle lui-même. Et il a été désarmé en 1991. Mm-hmm. Et aujourd'hui, eh bien, William, on peut le visiter.
Eh oui,
c'est pour ça qu'on vous le propose.
C'est ça qui est formidable. On va faire ça d'ailleurs en partie, si j'ose dire, grâce à Bernard Covin qui est PDG et papa fondateur de la Cité de la Mer, avec qui nous sommes en ligne là. Bonjour Monsieur Covin.
Bonjour.
Alors, je voudrais rappeler quelques chiffres pour nos auditeurs pour qu'ils situent de quoi l'on parle. Il mesure 128 mètres de long, le redoutable, 10 mètres de large et chacun des 16 missiles que le redoutable transportait avait une puissance, écoutez bien ça, 50 fois supérieure à la bombe atomique, voilà l'engin. Alors, combien d'hommes vivaient à bord de ce sous-marin-là? Et puis, une mission du redoutable, ça durait combien de temps?
Oh bien, globalement, sur le sous-marin, le redoutable, type redoutable, c'était 135 hommes, dont 15 officiers. Donc 135 hommes qui se relayaient, puisqu'il y avait deux équipages, un équipage bleu et un équipage rouge, de telle façon qu'en permanence, sur l'ensemble des 6 sous-marins nucléaires français, il y en a 4 à la mer en permanence. Donc ces équipages se relayaient, 135 hommes pendant 70 jours. Alors d'accord. 70 jours sans remonter à la surface.
Ah oui, c'est beaucoup.
C'est là quelque part, pour moi, l'exploit de ces hommes.
Oui, oui, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'à bord de ce redoutable, on embarquait de l'alimentation pour plusieurs semaines, pour 70 jours? C'est beaucoup,
oui.
Non ?
Oui. Ah ben, sans problème. C'était les fonctions du bateau. Vous avez d'ailleurs une. On a remis tout ça un petit peu en fonctionnement. Il fallait faire la boulangerie la nuit, pâtisserie pour le dimanche, la cuisine. Parce que, en définitive, les sous-mariniers, 70 jours, c'est quand même pas une mince affaire.
Non.
Globalement, j'ai toujours cru comprendre qu'ils mangeaient pas trop mal, que ça se passait bien. Ouais. Voilà, ça faisait partie de leur vie, parce qu'en définitive, le bateau devait tenir 70 jours en mer.
Ouais.
A priori, je pense même qu'il aurait pu tenir beaucoup plus longtemps grâce à l'énergie nucléaire de la propulsion. Mais là, nous rentrons dans des domaines plus complexes qui sont d'ordre psychologique. Comment 70 hommes coupés du monde peuvent tenir, quoi.
Et ils devaient se ravitailler souvent ou grâce à la propulsion nucléaire, c'était pas nécessaire pour le redoutable,
hein. Ah non, c'était pas du tout nécessaire. Ils partaient avec l'ensemble du ravitaillement, je dirais, de primaire pour vivre à bord de ce bateau. Après, l'énergie nucléaire permettait d'alimenter une centrale électrique qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, qui était l'équivalent d'une agglomération de 100 000 habitants. Ce qui permettait, à travers cette puissance électrique générée, de faire fonctionner deux éléments fondamentaux que sont la fourniture d'eau douce à partir de la prise d'eau de mer pour la travailler, pour en faire une eau douce, et qui fait que, globalement, et puis surtout, le renouvellement permanent de l'air à l'intérieur du sous-marin,
d'accord,
là aussi par électrolyse, pour apporter l'oxygène nécessaire au renouvellement. C'est vraiment une vie en totale coupée du monde,
oui,
totalement autarcique en termes de fonctionnement.
Mais ça fait, quand on dit 70 jours, c'est plus de 2 mois, quoi. Quand on dit 2 mois, moi, ça m'effraie un peu plus.
Oui.
Mais il paraît que le Redoutable était connu pour son confort, c'est vrai ça ?
Alors, là,
confort, oui, tout relatif, oui, bon.
C'est ça. Alors, pour les sous-mariniers à bord, qui sont souvent des jeunes de la génération 20, 35, 40 ans, à part les officiers, donc pour eux, c'était déjà un sacré confort, parce qu'ils venaient souvent de petits sous-marins, où là, le petit sous-marin, la vie à bord est quand même beaucoup plus compliquée. Par contre, il ne passe pas 70 jours sans remonter à la surface. Sur un petit sous-marin, chaque lit appartient à 3 sous-mariniers. Ce sont les 3-8. C'est ce qu'on appelle la banette chaude. J'ai un 8 heures dans le lit, je m'en vais, il y en a un autre qui arrive. Et parfois, votre lit, il est au-dessus des ravitaillements de sacs de pommes de terre. Enfin bon, c'est une vie très, très compliquée. Alors, quand ils arrivent sur ce type de SNLE, le Redoutable, chacun a son propre lit et chacun a sa petite armoire. Donc il y a déjà
il
y a la capacité à faire des activités sportives, à faire dans la longue tranche missile, ce qu'on appelle la tranche missile, qui est la plus longue du sous-marin, puisque c'est une succession de tranches. Bah, ils peuvent faire du jogging, du cyclorameur, parce qu'il faut s'entretenir. C'est tout le problème
du jogging. Vous exagérez, Monsieur Covin, du jogging.
Mais si, ils tournaient en s'inscrivant. faut qu'un jour vous veniez, je vous montre. Ils tournent dans la tranche missile, en prenant des rendez-vous, parce que faut que chacun fasse. Pour moi, ce qui est le plus fondamental, c'est la capacité à s'extraire du monde et de la famille durant 70 jours.
Bien sûr.
Mais dans une atmosphère totalement confinée, moi j'ai vu des gens, y compris qui étaient dans l'espace, qui sont venus dans le Redoutable et qui nous ont dit « jamais nous n'aurions pu être dedans ». Il y a une notion d'enfermement.
Oui.
Et d'aucune vue sur l'extérieur.
Alors, la visite maintenant. La visite, ça dure combien de temps ? Il y a un guide, il y a des audio-guides ?
Alors aujourd'hui, la visite du Redoutable, c'est 40 minutes avec 2 audio-guides. L'un qui est plutôt spécialisé sur les adultes et l'un que nous avons fait il y a 4-5 ans pour les enfants. Alors, moi, dès le début, j'ai souhaité que... Alors, c'est un choix politique que j'avais fait lorsque j'ai créé la CMR. J'ai pas souhaité qu'on parle des missiles, la distance à laquelle... Ce qui m'intéressait, c'est comment les hommes pouvaient vivre 70 jours. Donc là, par l'audio-guide, on accède aux fonctions essentielles du Redoutable. On comprend un petit peu beaucoup de fonctions. Mais on comprend surtout... On accède au secret de la vie à bord. Comment ces personnes vivent, comment s'équilibrent-ils, comment le médecin chirurgien, qui est en même temps un peu psychiatre, comment en fait le Redoutable ne peut pas vivre Octobre Rouge, parce que c'est ça le problème.
Octobre Rouge,
on n'est jamais à l'abri que quelqu'un disjoncte.
Oui, très bien. Bon, Merci pour toutes ces précisions, Monsieur Covin.
Je
recommande à nos amis de passer par Cherbourg. Vous visiterez la Cité de la Mer, bien sûr, et également le Redoutable. C'est un ensemble. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.
Et puis, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Je vous accueillerai avec un grand plaisir.
Avec plaisir. Ça me rappellera des bons souvenirs.
J'ai adoré votre émission. Au revoir.
Gavin, ça coûte combien de visiter This Boat?
This Boat, Das Boat, le Redoutable. C'est gratuit pour les moins de 5 ans. 14 euros entre... c'est déjà pas mal.
Oui.
Et 14 euros pour les 5 à 18 ans et 19 euros pour les adultes. Et c'est ouvert de 10h à 18h jusqu'au 31 décembre. C'est fermé le 1er janvier et jusqu'au 4 février inclus. Mais après, vous pourrez aussi apprécier toute l'année les 20 ans de la Cité de la Mer.
Non, c'est
2022.
Bien ça, la Cité de la Mer.
C'est vraiment très chouette. C'est un anniversaire qu'on va pouvoir célébrer toute l'année prochaine. C'est une raison supplémentaire pour vous y rendre.
Parfait. On peut dormir, non pas à bord du bateau, mais dans le coin.
Eh bien, pas loin. Il y a l'hôtel La Régence qui est juste en face du port. Alors, c'est une jolie déco anglaise avec des chambres douillettes. C'est à partir de 98 euros. Ça fait aussi resto, c'est pas mal. Et bien sûr, on pourra y goûter les spécialités de poissons et de fruits de mer à Cherbourg. Ça s'impose, William.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
On va se faire un petit selfie collectif, ça c'est assez rare à la radio pour être signalé. Tous les samedis entre 15h et 16h, vous le savez, dans Samedi en France, sur Europe 1, parmi les 4 sites que l'on vous propose de vous faire découvrir, aujourd'hui, un musée à Chalon-sur-Saône. Je ne sais pas s'il est très connu, mais nous on l'aime bien. Mon complice Gavin, Clémenté Ruiz, du Guide de Routard et moi-même, on a tenu à se faire photographier devant ce musée. Alors, expliquez-nous quel est ce musée et pourquoi il est intéressant, à quel point de vue.
Regardez, je ne vous vois pas bien là dans l'écran là pour la photo. Attention,
hop là.
Allez, on va aller visiter voilà. Le musée Nice et Fornieps. En effet, c'est le nom, vous l'avez dit, de l'inventeur de la photographie. Ça se trouve en Bourgogne. On est entre Lyon et Dijon. Nicéphore est né à Chalon-sur-Saône en 1765. Je l'appelle Nicéphore, on est déjà très intime. Et il est mort en 1833. C'est d'abord l'inventeur du procédé, on appelle ça héliographique. C'est l'ancêtre de la photographie. Et sa ville natale, donc, a eu la bonne idée de créer un musée à son nom. Et on va tout comprendre à ce personnage et on va retracer son parcours.
Le papa-maman Dieppe a baptisé le petit Nicéphore.
C'est beau.
Mais non, mais ça fait N-N, ça n'a pas dû être facile à l'école.
Ouais, mais quand vous appelez Nicéphore,
Nicéphore, c'est formidable. C'est moi, beau. Je connais que lui. Hein.
Moi, j'en connais pas d'autres.
Pour en savoir plus, nous avons au téléphone Sylvain Besson, qui est le responsable des collections du musée. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour.
Alors, ce musée est assez imposant. Là, j'ai des photos devant moi. Il y a combien de salles à visiter?
Alors, il y en a 9 en tout. Il y en a 7 pour le parcours permanent et il y a 2 salles d'exposition temporaire.
Alors, un mot d'abord sur ce monsieur, là, Dieppe. Qui est-il? Quelle est sa formation? Et comment est-il arrivé à inventer le procédé de la photographie sans être trop technique, hein?
Nicéphore Dieppe, c'est le fils d'un avocat à la cour, en fait, qui a une carrière assez classique. Hein, il a une formation pour se dessiner une carrière ecclésiastique. Et ensuite, il s'engage dans l'armée révolutionnaire. Ouais, exactement. Okay. Et il abandonne ça pour entrer dans l'armée révolutionnaire en 1792. Et puis en 1802, il rentre à Chalon et il vit de l'entretien de ses vignes, en fait.
Il vit de ses rentes.
Et puis, à partir des années 1804-1805, il commence à s'intéresser à l'innovation technique, à des inventions diverses et variées. En 1807, il dépose un brevet pour les premiers moteurs à explosion. Il se lance dans la culture du pastel pour contourner le blocus anglais.
Il était multi-techno, alors, Nicéphore.
Exactement. Il est multi-techno.
C'était un autodidacte, il n'a pas fait d'études particulières.
Absolument. C'est un pur autodidacte qui réfléchit tout le temps, qui pense tout le temps. Il améliore la draisienne. Il répond au concours d'amélioration des pompes de Marly. Enfin, il va tous azimuts.
On a parlé il y a un instant avec Gavis du procédé héliographique. Juste un mot pour dire pourquoi c'est l'ancêtre de la photographie.
Ben c'est, en fait, c'est le nom qui donne à son invention, mais c'est la photographie, en fait, savoir fixer sur un support l'image qui se forme dans une boîte, dans une caméra obscura, ce qui deviendra l'appareil photo.
D'accord, donc lui, il a appelé ça héliographique, mais en fait, ça s'appelle la photographie, point final, quoi.
Voilà, hélios pour soleil, en fait.
Ah, ben voilà. On vient au musée, on peut donc voir des collections, je suppose, d'appareils photo extrêmement rares, non?
Entre autres, oui, notamment l'appareil de Nicéphore Dieppe lui-même, mais en fait tous les appareils photo de l'invention jusqu'au smartphone.
Qu'est-ce qui permet de dire quand même que c'est bien lui, Nicéphore Dieppe, qui a inventé la photo par rapport à, je sais pas, par rapport à Daguerre, par exemple, ou à d'autres inventeurs? J'ai vérifié ça, il y avait l'anglais Talbot aussi, non, qui était dans le coup.
Ouais. Ben oui, vous avez raison. En fait, ils sont plusieurs. Il y a toute l'Europe qui cherche déjà à cette époque-là à inventer ce qui deviendra la photographie. Mais Niépce est le premier en fait à travailler sur le sujet dès 1816. Ah. Et les premiers contacts qu'il a avec Daguerre arrivent qu'en 1826. Mais la première photo faite par Niépce, c'est dès 1827. Et l'apport de Daguerre à l'époque est encore négligeable. Mmh. Et à la même époque, oui, vous parlez de Talbot. Effectivement, Talbot travaille aussi sur le sujet. Lui, il invente le négatif papier. Enfin, le négatif, ce qu'on connaît, nous, de l'argentique pendant le XXe siècle. Mais lui, ses premiers résultats avérés, c'est une publication qu'il fait qu'en 1844. Niépce est mort déjà depuis 10 ans à ce moment-là.
Ah oui. Est-ce que Niépce se rendait compte qu'il avait inventé un procédé qui allait révolutionner la façon, par exemple, de raconter l'histoire? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que ça lui a rapporté des sous à cet homme-là?
Alors, pour répondre à la première question, c'est vrai que Niépce se rend compte, si j'ose dire, qu'il tient quelque chose, hein, parce qu'il écrit dans sa correspondance « Je suis comme Christophe Colomb qui découvre un nouveau continent ».
Ah oui, bah, il a raison.
Ouais. Et il a totalement raison. Alors, après, au niveau financier, on n'y est pas du tout, hein, parce qu'en fait, ah bon, toutes ses recherches, il se ruine absolument toute la fin de sa vie à essayer de vendre son procédé, ses différents procédés, hein, que ce soit le moteur à explosion ou la photographie, et il se ruine pour financer ses recherches. Il ruine aussi quelques membres de sa famille.
Ah bon?
Oui, il y a un cousin ou un neveu, je ne sais plus, qui vend son château près d'Autun pour financer les recherches. C'est une catastrophe et il meurt quasiment dans le dénuement le plus total.
Ah zut, mmh. Alors il n'y a pas de système de droit d'auteur encore à l'époque. Vous vous rendez compte, le gars qui a inventé de la photo aujourd'hui?
En 1839, en plus, quand Daguerre annonce l'invention de la photographie, oui, en fait, il y a une rente versée par l'État à Daguerre.
Ah, oui.
Et il y en a une qui est versée au fils de Nicéphore, mais qui est dix fois moins chère, dix fois moins importante.
Ah zut.
Ouais.
Pour la famille.
Pour la famille, ouais.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Monsieur Besson. On se rend compte à quel point Niépce, c'est un morceau de notre patrimoine, j'allais dire, à lui tout seul. Je vous souhaite une bonne journée. Merci infiniment.
Bonne journée à vous.
Gavitz, combien ça coûte la visite?
Eh bien, c'est gratuit, William.
Ah, tiens.
Pas mal. Et c'est ouvert.
Décidément, la famille Niépce, ils n'ont pas de peau. Même le musée du tonton, rien que dalle.
Ah, allez, on le remercie quand même.
Oui, bien sûr.
Son invention, même le patrimoine mondial, hein, maintenant. C'est ouvert tous les jours, sauf les mardis, les jours fériés, de septembre à juin, précisément de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h45.
Alors, vous vouliez compléter cette visite par un autre endroit?
Eh bien, oui, si vous êtes à Chalon-sur-Saône pour aller voir Nicéphore, continuez un petit peu sur son parcours et vous allez à Saint-Loup-de-Varenne. Là, on est à 7 km au sud de Chalon-sur-Saône. Et là, vous irez voir la maison de l'invention de la photographie. C'est là, près de la cheminée, que fut prise en 1827 la première photo du monde par Nicéphore Niépce. Donc, on l'a compris.
Et il avait photographié. Je me souviens plus.
Alors, j'ai regardé la photo en préparant l'émission. Oui. C'est un petit peu flou. Alors, on dirait un paysage.
Si, on voit. Ah oui, c'est flou.
Ouais, vous avez une bonne vue.
On voit une maison sur la gauche de la photo avec un toit.
Ouais, c'est ça.
C'est la première, celle-là?
C'est la première et elle fut prise dans cette maison de l'invention de la photo à Saint-Loup-de-Varenne. On est près de la cheminée au premier étage et on l'appelle le point de vue du Gras, peut-être le nom du site. Il y a deux maisons sur l'image.
Oui.
C'est en quelque sorte le plus vieil atelier photo du monde que je vous propose d'aller visiter.
Sûr. Mais c'est assez joli, hein, je veux dire, sur le plan graphique. C'est pas mal.
C'est presque un dessin.
Oui, c'est ça.
C'est très beau.
Comme un dessin au fusain.
Exactement. Ah ouais. Ouais. Et donc, c'est la première photo et c'est le site où a été prise la première photo.
Très bien. Là, on a dormir, manger?
Oui, toujours. Pour manger, les canailles à Chalon-sur-Saône, sur l'île Saint-Laurent, c'est très agréable. C'est des plats canailles, bien sûr, comme il se doit, dans le cadre d'un bistrot. Mmh. On a un petit menu à 24 euros. On goûtera une petite tête de veau sauce gribiche.
Oula,
il y a des œufs murettes aussi. Les œufs murettes, j'adore ça.
C'est bien.
Les canailles à Chalon-sur-Saône.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Quand on parle de savoir-faire français, comme on l'a fait il y a quelques instants, en cette période de Noël, pourquoi ne pas se rendre à Aix-en-Provence pour découvrir une fabrique de santons dont l'origine date du siècle dernier? Alors, une ville que mon acolyte du guide du Routard aime tout particulièrement. Parce que ils s'en souviennent là-bas de votre visite. Parce que c'est là qu'il y a quelques années, il a choisi de se marier, vous me direz. Ça n'a rien à voir avec cette émission, c'est vrai, mais enfin, c'était bon de le signaler. Mais c'est un événement qui a compté pour lui, sa famille, ses amis. Bon, d'abord, Gavin, pourquoi Aix-en-Provence? Qu'est-ce qu'on appelle un santon? Et quel est le site qu'on va visiter là?
Ah bah pourquoi Aix-en-Provence? Parce que ma femme, hein, déjà. Et puis, non.
Elle est née là-bas.
Elle est aixoise. L'église Saint-Jean de Malte, le tableau de la croix, tout ça. Bref, c'est une autre histoire. On en parlera plus tard dans l'année. Mais alors, un santon, c'est quoi? Eh bien, c'est un petit saint. Et alors, Aix-en-Provence, eh bien, c'est dans les Bouches-du-Rhône. On est à 35 km au nord de Marseille. C'est pas loin. Et le petit saint, comme je vous l'ai dit, ce sont des santons, des petites figurines de terre cuite qui sont peintes.
C'est toujours de la terre cuite.
D'accord. Qui est peint et qui est très coloré et qui servent à décorer en fait la crèche de Noël. À Noël, c'est parfait. Là, on l'a installé à la maison la semaine dernière. Et l'art du santon est très présent en Provence depuis le début du 19e siècle.
Et alors, c'est curieux ça, quand vous dites ça. Début du 19e, moi, je vous disais, ça a toujours existé dans la région.
Eh bien non, c'est ça qui est intéressant.
C'est relativement récent, finalement.
C'est Jean-Louis Lagnel qui aurait créé les premiers. Et les sujets sont, les petits sujets comme ça, sont toujours vêtus des tenues traditionnelles provençales.
De la région, oui,
exactement. Mais alors, les santonniers, aujourd'hui, s'autorisent, on va dire, quelques fantaisies. J'ai pu voir sur le marché au santon un petit Rému, un petit Fernandel. J'ai même vu un Johnny Hallyday.
Alors là,
avec,
c'est plus surprenant, façon car il n'a rien à voir avec la Provence, Johnny.
Ouais,
avec la Belgique un peu, mais là, la Provence.
Juste à côté du rémouleur et du curé, c'est assez étrange. Vous allez voir.
Alors, on les trouve où, ces santons?
Eh bien, trois semaines avant Noël, les marchés aux santons s'installent un peu partout en Provence. Vous en avez dans tous les coins.
On est dedans, là.
Oui, on y est. Vous pouvez y aller. Il y en a en Arles, il y en a à Avignon, il y en a même à Marseille, près de la Rotonde à Aix-en-Provence. Mais on peut aussi aller directement sur le site chez un des fabricants de santons pour découvrir toutes les étapes de ce savoir-faire si particulier.
Oui. Alors, pour en parler justement, nous sommes en ligne avec Emmanuel Fouque, quatrième génération de santonnier de la maison Fouque, établi à Aix-en-Provence. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour William, bonjour Gavin. Oui.
Bonjour.
Alors merci de nous accueillir dans votre atelier de fabrication. Depuis quand votre honorable maison existe-t-elle?
Alors ma maison, elle a été créée par mon arrière-grand-père, elle existe depuis 1934, ce qui fait 87 ans.
Ah oui, et ça vient d'où cette tradition de faire des crèches pour Noël avec des santons? J'ai fait part à Gavis, mon complice, là, de mon étonnement, je croyais que c'était plus vieux que le 19e siècle, moi.
Oui, parce que plus vieux, on rapproche ça du Santibelli qui arrivait d'Italie, mais en fait le santon, lui, c'est la cause de la fermeture des églises à la Révolution.
Oui.
Qui a poussé les Provençaux à représenter en petite taille ces saints d'église. D'où le nom Santoun, hein, qui veut dire petit saint.
Ah, bon,
par la suite, les gens se sont représentés eux-mêmes à côté de ces saints, et ça a donné naissance à la crèche provençale, et surtout à la pastorale qui sera écrite en 1844.
Quand vous dites la crèche provençale, ça voudrait dire qu'il y a des crèches bretonnes ou alsaciennes, non?
Aujourd'hui, il y a des figuristes qui font des pièces à l'effigie de leur région, hein, mais l'initiation de cette crèche provençale a été faite en Provence,
par
Daniel, effectivement. Ouais.
Alors maintenant, vous avez parlé de taille. Là. Pour réaliser une crèche, est-ce qu'on doit mettre, là, dans notre crèche domestique à la maison, est-ce qu'on doit mettre des santons qui ont tous la même taille?
Pas forcément. Moi, j'encourage à faire des perspectives et à créer des petites scénettes avec des personnages de différentes tailles où on va mettre effectivement la nativité devant et au loin le meunier qui arrive avec son moulin qui est en hauteur tout petit.
Et combien de personnages vous proposez-vous à la vente? Ça veut dire combien de personnages, après tout, vous avez créé depuis 87 ans?
Voilà,
on sait plus où les mettre là.
C'est exactement ça. Comme ça fait 87 ans et qu'il y a toujours eu un créateur qui est un membre de la famille, hein, donc nous n'avons pas fait appel à d'autres créateurs, c'est toujours un Fouque qui a créé les modèles. Aujourd'hui, on a 1800 modèles à la collection.
Un santon, selon sa taille, ça oscille entre quel prix? Parce que nous, là-bas, on habite loin de chez vous, alors on peut parfois se faire avoir.
Oui, bon, un santon de la collection, je dirais, la plus standard, entre 7 et 9 cm, il faut compter entre 11 et 20 euros.
D'accord. Alors, un mot juste sur les grandes étapes de la fabrication. C'est long à faire, un santon?
Ce qui est très long, c'est déjà de créer la pièce. Donc, pour ça, il faut la modeler, la façonner au doigt et puis la sculpter à l'outil par la suite. Mm-hmm. Il me faut une vingtaine d'heures, moi, pour créer un santon de 9 cm.
Ah.
Et ensuite, on va réaliser, à partir de cette création en argile, hein, qui est entièrement faite à la main, on va réaliser un moule qui lui permettra de fabriquer et de dupliquer fabriquer la pièce.
Et oui, bien sûr.
Et quand ensuite, il y a le séchage et la cuisson, hein, et bien la sûr. Décoration.
Bien
tout
sûr.
Ça, c'est relativement
la décoration,
long.
Ça veut dire qu'il faut le peindre.
Il faut le peindre et c'est tout fait à la main avec le pinceau.
D'accord, mais où vous puisez votre inspiration? Parce qu'une fois qu'on a fait le rémouleur, le curé, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer de plus, surtout inspiré par la région, vous voyez ce que je veux dire?
C'est totalement infini. Mon grand-père me disait, il ne me suffira pas d'une vie pour tout faire, et aujourd'hui, je comprends ce qu'il me dit. En fait, cette inspiration, c'est le village provençal et tous ces vieux métiers que l'on a perdus, qui aujourd'hui n'existent plus. Un rémouleur, ça n'existe plus.
Oui, oui.
Un chiffonnier, ça n'existe plus. Mmh. Un vitrier qui passait dans les rues, ça n'existe plus. Tous ces petits métiers sont à nouveau mis à l'honneur dans la crèche.
Alors, on propose à nos auditeurs d'Europe 1 de visiter vos ateliers. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que votre maison est devenue, depuis 2010, Atelier d'Art de France. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, pour moi, ce sont des labels de savoir-faire, hein, qui distinguent effectivement une entreprise qui fait les choses telles qu'elles étaient faites de façon ancestrale, mmh, et qui respecte ce processus. C'est-à-dire que pour moi, dans mon entreprise, tout se fait à la main et on travaille comme mon arrière-grand-père travaillait. Mmh. Et ce savoir-faire, eh bien, effectivement, il se transmet que de maître à élève. Il n'y a pas d'école de ce métier.
Oui, c'est ça.
Donc c'est vraiment un savoir-faire, c'est un label Art de France. Vous avez Entreprise du patrimoine vivant, dont je suis très fier, puisque patrimoine vivant, c'est-à-dire que si nous on arrête ce métier, il disparaît.
Oui, bien sûr. Mais oui, mais c'est... Et vous avez à cœur de transmettre, de mettre à élève. Dites-moi, Emmanuel, il faut chaque année en créer de nouveaux, sinon on stagne. On est bien d'accord. Vous en rajoutez à peu près combien chaque année? Un, deux ou beaucoup plus que ça?
En fait, c'est très variable. Je vais rajouter une ou deux idées que je vais dupliquer en plusieurs tailles, ce qui m'amène à créer à peu près une vingtaine de personnages. Par
alors,
une
ou deux, alors, par exemple, pour cette année, une ou deux idées nouvelles, un ou deux personnages nouveaux, dites-moi.
Eh bien, ça a été le thème des lavandes qui a été abordé, hein. Donc, on a mis en scène les lavandes. Avant, on faisait un personnage qui était figé, porteur d'offrande. Aujourd'hui, on crée des scènes. Donc, vous avez le ramasseur avec une serpette, la ramasseuse avec des bras remplis de lavande, un âne batté, puisque tout se faisait à dos d'âne, qui porte les lavandes. Mmh. Et derrière, j'ai rajouté un petit animal, un chien de chasse. Un chien de chasseur, on joue beaucoup et le plaisir de ce métier, c'est la création, bien sûr.
Évidemment. Alors, c'est vous le pilote de tout ça. On peut passer commande chez vous?
Ah, bien sûr. Vous avez le site internet, vous pouvez venir nous voir à l'atelier, on visite notre atelier.
Eh bien, c'est bien pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'on visite l'atelier. On va reparler avec Gamis dans quelques instants. En tout cas, merci pour cette présentation et toutes ces précisions. Je vous souhaite une excellente journée et je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci beaucoup. Bonne fête à vous tous.
Oui, bonne fête à vous. Merci beaucoup. Alors, on peut visiter, Gamis, l'atelier?
En effet, tous les jours en décembre, de 10h à 19h, sauf le 25, bien entendu. Il y a une exposition permanente de la crèche familiale qui est visible aussi toute l'année chez Fouque. Et c'est gratuit, William. Mmh. Et vous pouvez aussi retrouver les Centres Fouque sur les marchés de Noël. Alors, si vous êtes ailleurs, il y a Neuilly-sur-Seine, Montbéliard, Besançon, Pontarlier, Ajaccio et sur la foire au Santon d'Aix-en-Provence, bien sûr, jusqu'à début janvier, et la foire au Santon de Sceaux aussi.
Quand on a la chance de passer à Aix pour continuer la visite, puisqu'on y est, une autre idée?
J'ai envie de perpétuer la tradition de Noël en Provence. Il faut absolument aller visiter la fabrique de calissons du roi René. C'est peut-être pas les meilleurs, mais certainement les meilleurs quand même. Il y a plusieurs chapelles. C'est à 7 km d'Aix-en-Provence. On se régale de cette douceur. Alors, c'est typiquement provençal. C'est réalisé avec un tiers d'amande, un tiers de melon confit d'apt et un tiers de sirop de sucre bien chaud. Une recette qui date du 15e siècle, William, pour ces petits calissons. On en goûte aussi dans l'atelier du roi René. Alors pour Noël, il fabrique des calendriers de l'Avent. Là, ça a bien commencé. Mais il y a aussi des belles boîtes en métal collector. Alors si vous voulez une bonne idée pour Noël, vous pouvez acheter celle avec les 13 desserts provençaux. Il y a des calissons bien sûr dedans. Il y a du nougat blanc, le nougat noir aussi. Je vous conseille
le nougat noir.
Alors allez-y, le nougat noir du roi René dans cette petite boîte, c'est génial. Vous pouvez l'acheter aussi en bar, c'est vraiment super. Il y a les dates, il y a les meilleurs.
Bon, alors évidemment, ceux qui sont les concurrents de cette entreprise, il a fallu faire un choix. Voilà,
franchement, il y a le roi René, il y a aussi Brémond qui est très très bon. Bref, il y a plein de chapelles.
Bien sûr, il y en a d'autres.
Chacun y trouvera son compte. Mais
d'accord,
allez-y, c'est très bon, le roi René.
Merci Gavis. Voici maintenant votre rendez-vous hebdomadaire avec une personnalité qui vient vous faire découvrir une région chère à son cœur. Daniel Moreau a rencontré Christian Signol. C'est un auteur très peu présent, pas assez, en tout cas à notre goût, dans les médias, mais qui est pourtant considéré comme l'un des 10 romanciers préférés des Français, à qui l'on doit notamment La Rivière Espérance, ça doit peut-être vous dire quelque chose, et dont les livres sont traduits en 15 langues quand même. Alors il est né dans le Quercy, c'est une région qu'il n'a jamais quittée, et vous allez voir, dont il parle avec passion.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Christian Signol.
Bonjour.
Alors on peut dire que toute votre œuvre est imprégnée de vos premières années dans le village des Quatre Routes du Lot, hein, où vous avez grandi. Pouvez-vous nous parler de ces bonheurs d'enfance que vous savez si bien décrire ?
C'était un petit village au pied du Causse de Martel où j'ai vécu follement heureux, dans la liberté quotidienne des prés et des champs, auprès de parents et de grands-parents, d'une bonté, d'une générosité extraordinaire, ce qui fait que ça a été vraiment une enfance très heureuse. Dans un petit village du Lot, donc, c'est-à-dire en Quercy. Quercy qui était à l'époque, et qui est toujours d'ailleurs, ce qu'on appelait la terre des merveilles. C'est-à-dire les merveilles, c'était Rocamadour, Saint-Cyr-la-Popie, la vallée de la Dordogne, enfin le paradis terrestre.
C'est un paysage très escarpé, hein, c'est ça, vous êtes vraiment au pied des causes de Martel ?
Oui, absolument. Tout comme Rocamadour est un grand éperon rocheux dans le ciel bleu, avec la vallée verte en bas. Et un site extraordinaire où on sent comme une présence divine, presque un sentiment d'éternité. Un lieu où, comme l'a si bien écrit Julien Gracq, la pensée se couche au profit d'une lumière meilleure.
Pour les gens qui ont envie de visiter, peut-être à pied, un petit peu de se perdre, est-ce qu'il y a des merveilles dont vous avez envie plus particulièrement de nous parler ?
Oui, Rocamadour et puis Saint-Cyr-la-Popie, où les rues sont des rues très étroites, silencieuses, où règne une paix extraordinaire. Et mon enfance, c'est aussi non seulement le Quercy, mais aussi le Périgord, c'est-à-dire Sarlat, où vivait ma famille paternelle, et où ma grand-mère m'a mené avec sa petite carriole pour vendre des légumes au marché de Sarlat.
On peut dire que la déchirure de partir de ce petit village du Lot à 11 ans, ça a vraiment fait de vous un écrivain, c'est le premier déclenchement ?
Oui, absolument. D'ailleurs, un ami psychiatre m'a expliqué que si je m'étais mis à écrire, c'était pour retrouver cette enfance-là. Et je pense que c'est vrai, parce que c'est effectivement une enfance très, très, très heureuse, dont je garde un souvenir ébloui, auprès de gens qui m'ont donné confiance dans l'humanité et qui m'ont fait connaître les beautés du lieu, et notamment, par exemple, la vallée de la Dordogne, parce que la rivière Dordogne fait le lien entre le Quercy, parce qu'elle traverse le nord du département du Lot, et le Périgord. Elle arrive ensuite en Dordogne. C'est une vallée de premier jour du monde qui a gardé la beauté d'origine des lieux de premier jour du monde avec sa lumière, sa luminosité, sa verdure, ses châteaux. Le château de Sainte-Mondane, de Fénelon, le château de Bénac, la Roque-Gageac et le château des Milandes où moi j'ai vu, quand j'avais 10-12 ans, Joséphine Baker, ses enfants et son mari Jo Bouillon, parce qu'ils donnaient une fête, je pense que c'était le 15 août, une fête dans la cour du château, et j'en garde aussi un souvenir fabuleux.
Très, très beau souvenir, merci de nous le faire partager. Alors là, ce n'est pas un souvenir, c'est votre actualité, le nouveau livre qui est publié chez Albin Michel, « Là où vivent les hommes ». C'est l'histoire d'un trentenaire citadin qui va rencontrer à la fois un personnage, un berger d'Écosse, et puis un paysage et une nouvelle façon de vivre.
Oui, c'est le roman d'un jeune homme trentenaire oui, qui, à la suite d'un drame familial, quitte Paris, roule la nuit sans activer son GPS, sans savoir où il va, et qui se retrouve le lendemain sur un cosse qu'il croit désert, mais en réalité, c'est le cosse Méjean, mais en réalité, il est peuplé, il rencontre là un berger et sa patronne, Achille et Louise, qui vont lui faire retrouver le goût de vivre, alors qu'il l'a perdu. Ils vont lui faire retrouver les vraies richesses.
Je sais que vous avez des lecteurs fidèles qui vont se précipiter sur Là où vivent les hommes chez Albin Michel. Merci beaucoup, Christian.
Merci à vous.
Ah oui, c'est vrai. Il a des lecteurs fidèles, c'est des adeptes. Un cos, c'est un plateau, une sorte de plateau, c'est ça ?
Exactement.
Okay.
Et j'adore. Et j'en profite, oui. J'embrasse sa fille, que j'aime beaucoup, Caroline Signol.
D'accord.
Oui.
Et pourquoi vous l'embrassez ?
Bah parce que j'aime beaucoup Caroline.
Et qu'est-ce qu'elle fait, Caroline ? Elle travaille dans l'édition.
Exactement.
Ah, voilà. Merci beaucoup à Christian, merci à Daniel. La semaine prochaine, alors, une autre personnalité vous emmènera à la découverte d'une autre région. C'est une façon, vous savez, dans cette émission, de faire connaissance avec la France. Tout simplement, si j'ose dire.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Pour le dernier site de ce samedi, on vous propose, comme d'habitude, une expérience en plein air. Alors avec Gavin Clémenté-Ruiz du Guide du Routard, on a choisi Tignes. Oui, c'est très très haut. C'est là que se trouve l'école, écoutez bien, ça s'appelle comme ça, l'école des explorateurs d'Alban Michon. Alors pourquoi là, pourquoi lui et pour y faire quoi?
Ça fait pas mal de questions. Attendez, je m'étire un petit peu là, parce que dis donc, on va aller voir les explorateurs, ça va être dur. On va à Tignes.
Bah, oui. Non, mais ils ne sont pas tous explorateurs.
Non,
c'est ça qui est bien. Nous, on va apprendre à devenir.
Mais il faut bien s'étirer quand même un petit peu avant. Allez, on y va. On va à Tignes, en effet, c'est à 30 km de Bourg-Saint-Maurice. Alors c'est un ensemble de plusieurs sites avec le cœur de la station qui est Tignes 1800. Et cet explorateur, ce chef des explorateurs, c'est Alban Michon. Mmh. Quel homme ! C'est un aventurier, c'est un spécialiste des milieux extrêmes. Il sait de quoi il parle. Et pour faire quoi là-bas ? Et bah pour faire un stage de survie.
Ah, alors on m'a dit que cette école était unique en France.
Ouais.
Alors je me suis demandé si, du coup, c'était pas réservé à des professionnels ou semi-professionnels ou des amateurs avertis plutôt qu'à des amateurs comme vous et moi. Et parmi ceux qui nous écoutent, il y en a sûrement aussi des amateurs non avertis, non ?
Eh ben c'est pour tout le monde, en fait.
William. Ah ouais, sûr.
C'est pour, ouais, vraiment, vous pouvez y aller. Vous êtes déjà un pro, hein, un grand
oui.
aventurier.
Non, mais ça, c'est à cause de mon cœur d'athlète. Non, au-delà de ça, j'ai jamais fait ça, par exemple.
Eh ben, vous allez voir, c'est un vrai centre pour les équipes qui préparent des expéditions polaires, par exemple. Mais c'est aussi ouvert aux amateurs qui peuvent découvrir des techniques de survie polaire. C'est très à la mode, ça aussi, de faire des stages de survie autour du lac gelé de Tignes. Alors attention, couvrez-vous bien. Vous allez, écoutez-moi, vous allez voir, vous allez descendre sous la glace, vous allez apprendre à monter votre tente en pleine tempête, ou alors, ça peut être très 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 utile, construire votre propre igloo.
Oui, il faut quand même des infos là, ça mérite des explications. Nous sommes en ligne pour parler de tout ça avec Alban Michon, justement, qui a créé cette école unique en France. Bonjour Alban.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va ?
Mais je vais très très bien, je suis très heureux de vous écouter.
Et il fait quel temps chez vous ?
Alors là, il neige pas mal et ça fait du bien, ça fait plaisir.
Alors, vous allez nous expliquer ce que vous proposez et dans quel but et qu'est-ce qu'on trouve chez vous qui peut nous motiver, quoi, nous donner envie de vous rejoindre.
Alors, comme vous disiez, cette école est ouverte à tous, à tout le monde, et il y a deux choses. La première chose, c'est que je prépare des gens qui veulent partir à l'aventure au bout du monde. Donc là, je leur prépare des stages adaptés à leur projet. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que je propose du ice floating. Donc le ice floating, c'est on vous donne une combinaison de survie et vous allez flotter dans le lac de Tignes, au milieu des glaçons, pour apprendre le lâcher prise.
Ah bon ? Mais alors, c'est une démarche un peu psycho-bien-être, c'est ça ?
Oui, alors le ice floating vient de Finlande à l'origine. Et c'est vrai qu'on est vraiment en plein cœur de l'environnement, on va observer les montagnes autour de nous, et c'est surtout qu'on va vraiment se relâcher, se détendre avec l'univers qui nous entoure, qui est l'environnement. Donc on est vraiment en connexion avec elle, et c'est surtout que j'aime rappeler aux gens qu'on prend le temps, du temps pour soi.
Alors justement, imaginons, on arrive là-bas, Gavin c'est moi, on veut prendre le temps, on fait quoi ? On s'habille comment ? On a des conseils de quel genre ? On reste combien de temps sur la glace, etc.
Alors, il y a deux choses. Soit vous préparez une expédition, auquel cas on va
non, là, c'est pas le cas.
Oh si, William, quand même.
Si vous suivez William, à ce moment-là, je vous donne une combinaison donc, de survie. Vous restez tout habillé avec vos habits, parce que c'est étanche à l'intérieur, l'eau ne rentre pas.
Oui.
Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. En 5 minutes, c'est très rapide, c'est très facile, c'est vraiment même ouvert à des enfants. L'année dernière, j'ai eu des enfants de 9 ans qui sont venus. Et ensuite, vous allez pouvoir vous immerger dans l'eau glacée, dans l'eau qui fait 2 degrés.
Et on flotte ?
Vous flottez, vous vous détendez.
Mais on a un masque, on a un chapeau, on a quoi ? On est mouillé alors ?
Pas du tout. Vous avez une cagoule, la tête reste à l'extérieur de l'eau.
Ouais.
Vous avez un masque sur les yeux qui vous protège potentiellement les yeux du soleil ou de la neige.
D'accord.
Et vous allez rester comme ça dans de l'eau à 2 degrés pendant environ 30 à 40 minutes.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le ciel et on médite.
Vous reposez, vous prenez du temps, parce que le temps, je vous rappelle, c'est le luxe du monde de demain.
Ouais.
Et surtout, moi, j'ai des gens qui se sont endormis. J'ai des gens qui, à la sortie de leur session d'ice floating, m'ont dit « mais ça équivaut à un massage ».
Alors, ice floating, in French, ice, c'est la glace. Floating, c'est je flotte sur de la glace. Et j'ai une photo. Alors, on voit deux personnages avec la combinaison. Ils sont là sur le dos, ils ont les bras écartés, ils regardent le ciel. Ils ont l'air paisibles et la glace, elle est morcelée. On est posé sur des petits bouts de glace, c'est ça ?
Oui, en fait, la glace va vous enrouler, en fait, vous englober, et voire même, des fois, quand il fait, on le fait aussi la nuit, par exemple, avec une lumière dans l'eau, la glace, des fois, vous emprisonne. C'est-à-dire que, mais c'est une sensation qui est très sympa, qui est très agréable, parce que c'est unique, d'ailleurs.
Nous, ici, par exemple, on fait ça assez rarement, le coup de...
Totalement, donc c'est vraiment un moment...
Nous on est sur le dos, comme ça, sur le périphérique, mais c'est spécial, je vous dis tout de suite. Et quand vous faites des stages, alors maintenant on revient aussi à votre autre activité pour les professionnels, vous adaptez le stage à l'âge ou à la condition physique de celui qui y participe ?
Oui, alors déjà je vais demander un petit peu plus de détails bien évidemment par rapport au projet et je vais isoler une problématique. Et à partir de là, on va travailler, on va faire des ateliers pour répondre aux problèmes. Parce que bien évidemment quand on part en expédition plus ou moins au bout du monde, il faut même bien anticiper tout ce qui peut arriver. Donc voilà... C'est ce qu'on fait ici sur Tignes. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un lac, on en parlait juste avant, ça simule une mini-banquise. C'est un mini-pôle Nord, donc on a tout pour bien faire.
Écoutez, moi, en regardant la photo, finalement, je me dis, bon, ça vaut le coup d'aller là-haut. Puis en même temps, on va voir ça avec Gavis dans un instant. On doit pouvoir aller se balader dans la région, mais on a compris le système. Merci beaucoup, Alban, et bravo pour cette initiative assez originale. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Alors, Gavin, l'ice floating, bon, j'ai compris, ça coûte cher ?
50 euros pour une heure.
On se met comme ça, et quand on sort de là, on est meilleur ?
Bah, vous allez voir, vous serez un autre homme, William. Et si vous voulez, vous pouvez aussi avoir le stage de dépassement de soi. Ah. Là, c'est 90 euros par personne.
Alors, c'est quoi ça, dépassement de soi ?
Là, on expérimente encore un peu plus. Il y a la construction, et puis le fameux igloo, si vous voulez.
On survit dedans, on apprend à...
On apprend à rester dedans. Rigolo, il y a le stage aussi, et j'aime bien, Extreme Explorer, c'est la journée. Là, c'est encore un peu plus, c'est 140 euros la journée. Vous avez le briefing, le montage de tente en pleine tempête. Là, tomber à travers la glace dans l'eau gelée et vous en sortir, surtout. C'est ça qui est intéressant. La mise en place...
Mais là, il faut être un petit peu...
Si vous êtes un peu plus aguerri, en effet. Et si vous n'avez pas un projet particulier, disons que c'est une bonne entrée en matière. Peut-être que ça va vous donner des idées pour la suite.
Oui, mais quand on sort de là, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour aller déjeuner, dormir ? Non, c'est pas le genre. On est quand même
après
Tignes.
Après l'effort, le réconfort. Et on va aller à la ferme des Trois Capucines au Lavaché. C'est le resto le plus authentique de Tignes, j'ai envie de dire, aménagé dans une seule ferme de la station. On mange près de la cheminée ou alors sur la terrasse quand il fait un peu meilleur. C'est copieux et surtout, c'est savoyard dans l'assiette.
Bon, alors si vous souhaitez en savoir un peu plus, eh bien, europe1.fr. On termine avec un récapitulatif de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. 4 sites, 4 lieux très différents. Si vous étiez là depuis le début, vous l'avez constaté, nous avons, allons-y Gavis, plongé 20 milieux, à peu près 20 milieux sous les mers.
Exactement, avec le redoutable à la Cité de la Mer de Cherbourg. Nous avons aussi découvert le premier appareil photo au monde, au musée Nicéphore Niépce, l'inventeur de la photo, c'était à Chalon-sur-Saône. Ensuite, on a appris à faire sa crèche avec les santons, les santounes, les petits saints en terre cuite. Ces saints en terre cuite à la Maison Fouque.
Maison Fouque, célèbre maison d'Aix-en-Provence. Oui.
Exactement, et enfin, on vient de terminer et on est des vrais explorateurs désormais grâce à Alban Michon à Tignes en Savoie.
Oui, vous l'avez compris, il y a 4 sites, c'est pour évidemment à chaque fois que vous ayez une surprise et ça continuera, j'espère. Alors une idée maintenant pour vos sorties culturelles qui ont un rapport avec la France cette semaine, c'est un livre.
Oui, c'est un beau livre.
Oui, qui incite à la marche, un petit mot là-dessus.
Ça s'appelle Compostelle, le grand pèlerinage de Sylvain Bazin. C'est un beau livre qui est paru chez Glénat. Sylvain Bazin, c'est un vrai marcheur, un vétéran. Il a publié plein de nombreux ouvrages sur le sujet et là, qui donne à chaque fois envie de partir, on a envie de le suivre à l'autre bout du monde. Cette fois, il nous invite sur le chemin de Saint-Jacques. J'ai envie de dire, c'est un classique du genre, mais une fois de plus, il renouvelle le style, il retrace les grandes portions du chemin du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, il y a de tout. Il y a des cartes, il y a des photos, c'est hyper complet. Il y a un texte aussi de Sylvain Bazin, j'aime beaucoup. Ça s'appelle Compostelle, le grand pèlerinage et c'est chez Glénat.
C'est tout pour aujourd'hui, Madame, Monsieur. Merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Morgane Biquillet et Gavin Clémenté-Ruiz du Guide de Routard. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain, c'est à 15h, pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites. Bon après-midi sur Europe 1.